Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Boudelux Paris, l'édition du week-end. Karine Verniolle et Emmanuel Rubin.
Et bienvenue, ravi de vous retrouver pour Goodlux Paris, l'édition de week-end. Vous le savez, désormais, Goodlux est tous les jours de la semaine. Je vous retrouve en direct à 13h. Et quand enfin arrive le week-end, je retrouve mon acolyte de toujours, Emmanuel Rubin, directeur éditorial des éditions Jaloux. Et ce week-end, nous vous invitons à un petit week-end offert à Chantilly, le domaine royal. Avec les beaux jours, s'anime plus que jamais. Bien sûr, il y aura le prix de Diane au mois de juin. Mais en attendant, nous vous proposons d'aller humer le jardin gourmand, des journées des plantes, d'assister à un match de polo exceptionnel France-Argentine ou encore de vous prendre un petit verre dans la nouvelle boutique Hubo 1539, c'est une cave à vin, et puis de finir tiens par une petite nuit à l'auberge du Jeu de Paume. On y va dans quelques instants, mais d'abord les nouveautés de la semaine.
Goodlux Paris, l'édition du week-end, les nouveautés de la semaine.
Et cher Emmanuel, on commence les nouveautés de la semaine avec une petite table.
Petite table, t'as pas mal du tout. Alors, l'enseigne s'appelle Jaïs ou Raïs, J-A-I-S, je suis pas très doué. Ça remplace rue Surcouf du côté du Quai d'Orsay, 7e arrondissement parisien, ce qui était le Petit Tchou. Petit Tchou, table thaïlandaise, qui a eu son heure de gloire et qui franchement commençait à peiner. Remplacé donc aujourd'hui par un bistrot orchestré par les frères Mimoun. Alors il y en a un qui s'appelle Jaïs et l'autre qui s'appelle Raïs. Raïs est en cuisine, Jaïs est au service. Tous les deux... dépotant joliment, décor et cuisine qui est aussi entre le rétro et la jouvence. C'est-à-dire qu'on va se retrouver à sculpter des vrais petits plats popus bien améliorés, l'œuf mayo, la rémoulade tourteau, on connaît, et puis des plages que j'appelle de jouvence, c'est-à-dire toujours dans cette matrice un peu bistrotière, mais rafraîchie. C'est par exemple cet artichaut poivrade, ça tombe bien, c'est la saison, travaillé avec une crème de pleurote et des œufs de caille pochés. Encore mieux, la canette, elle est laquée miel, travaillé avec des navets glacés à l'orange et une purée de dattes citron confit. Jaïs, Raïs, on sent que l'orient vient pointer du côté de la bistrotte. C'est très réussi. Et puis, aujourd'hui, ce qui est le standard, à nouveau, là encore, un plat qu'on avait perdu de vue et qui revient, comme souvent, vous savez, ces vieux plats de ménager qu'on réinvente, c'est l'omelette norvégienne. On la voit de plus en plus aux tables parisiennes des bistrots. Elle est là, j'allais dire, toute gonflée, toute joufflue. Plutôt réussie, belle adresse, j'aime beaucoup.
J'ai, on va dire, nous, J-A-I-S, c'est reçu dans le 7e. J'ai faim, j'ai envie, voilà. Allez, l'astelier, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord et avant tout, au début de l'histoire, un blog qui référence de la maroquinerie, des accessoires, etc., qui regarde tout ceci, comment ça se passe. Et comme de plus en plus souvent, à force de regarder comment ça se passe, ils ont envie de s'y coller aussi. Donc la créatrice, elle a vécu et travaillé 7 ans en Italie pour une grande maison italienne de luxe. Et du coup, elle a eu envie de s'y coller. Donc pendant 2 ans, elle a cherché un petit peu. Ce qui est étonnant, c'est qu'elle travaille aussi bien l'accessoire en cuir que les bijoux en argent et qu'une ligne de chapeau. Donc elle lance tout... En même temps, son idée, elle dit, voilà, nous, on fait des accessoires avec de beaux matériaux dans des beaux ateliers. On n'en saura pas plus sur tout ceci. Mais voilà, 3 modèles de sacs, de petites maroquineries. C'est des bracelets en argent avec des petites charms. Vous savez, c'est le petit pendentif qu'on met sur le bracelet. Différentes couleurs pour les chapeaux. C'est simple, efficace, de bonne facture. C'est une nouvelle marque à découvrir. Ça s'appelle...
Parfait pour le week-end, ça.
Exactement, c'est un petit peu le must-have du week-end. Voilà,
quand parfait vous pour Chantilly.
Exactement, parfait pour notre week-end à Chantilly. Allez, en attendant, Web de Luxe.
Goodlux Paris, l'édition du week-end, Web de Luxe.
Sandy Prenois, bonjour.
Bonjour Karine.
Comment ça va?
Ça va, super. Emmanuel. Je vous voyais faire ça.
Non, mais bon,
Emmanuel Rubin est là aussi.
Je suis invisible.
Alors, et sur le web?
Sur le web, pas mal de choses. Alors tout d'abord, Chanel qui se dévoile un petit peu différemment sur son compte Instagram. La maison nous propose une véritable exposition d'art moderne. Elle s'est inspirée en fait de tableaux de grands artistes peintres tels que Magritte, Kandinsky, Mondrian, Malevitch et j'en passe. Et en fait, elle propose de découvrir 9 créations hyper colorées réalisées avec du vernis à ongles. Alors, ouais, c'est hyper étonnant, c'est plutôt bien fait, assez réussi, et ça donne véritablement l'occasion de voir le vernis et ses couleurs d'une manière un petit peu plus sensible.
Ah, le petit Kandinsky est sympa avec
tout ça. J'ai trouvé ça sympa.
Tout ça est tombé dans le domaine public, je suis pas certain que Kandinsky apprécierait.
Ça le ferait sourire au moins, peut-être. Non, c'est bien fait.
Allez, et puis, on part faire du tourisme avec Imidia.
Alors, Imidia, c'est une nouvelle plateforme, application, effectivement. effectivement concentré sur le tourisme de luxe. L'idée, c'est de proposer à des clients fortunés des jets, des limousines, des villas de rêve et de se positionner comme le nouveau Uber des yachts en proposant d'affréter un bateau et d'être livré 2 heures après. Évidemment, il y a un service 24/24 avec les petits fours, enfin tout ce qu'il faut pour aller avec. Voilà, c'est ça qui est proposé. C'est cette nouvelle plateforme Imidia qui est une rencontre, si vous voulez, entre deux personnes. Anthony Brissac qui travaille à Dubaï avec le groupe MAF AAS, donc qui est maintenant président et fondateur d'Imidia, qui a beaucoup travaillé dans l'univers du yachting, notamment à Monaco. Et puis Christophe Chauvin, CEO d'Imidia, qui lui a toujours travaillé dans le tourisme de luxe, mais dans les hôtels. Ils se sont rencontrés, ils ont créé cette plateforme qui est présente en France, mais également à Miami, bientôt à l'île Maurice, à Dubaï et à Saint-Barth. On attend, on verra.
Pour régler les méga problèmes de riches.
Ouais, c'est ça. J'ai besoin d'un jet et là, d'un yacht. Je suis crevée, il me faut un peu
c'est
de vacances.
C'est la jet ubérisation. L'upper Uber.
Et puis, dernière info sur la traçabilité des produits.
Alors, on en avait parlé effectivement en mars dernier, c'était la plateforme Ikitag qui proposait de suivre vos produits grâce à des petites cartes technologiques qu'on insérait dans tel ou tel produit. Ça va de plus en plus loin dans l'univers du luxe, vous le savez, on en avait aussi parlé avec Burberry qui joue aussi un petit peu la technologie, le luxe, etc. Là, c'est Moncler qui s'y met, donc spécialiste de la doudoune de luxe. Ils intègrent la solution technologique qui est la carte RFID dans toute leur doudoune désormais. Ça va permettre beaucoup de choses. De suivre les produits, évidemment, de les authentifier facilement, évidemment, de fait, de lutter contre la contrefaçon, et évidemment de jouer sur l'image là encore. Ces petites cartes RFID, il y en a d'autres qui les utilisent dans l'univers du luxe, en l'occurrence des chaussures Ferragamo, Salvatore Ferragamo, qui les utilise depuis 2014. Donc on voit véritablement que c'est quelque chose qui se développe. Il y a toujours cette question de la confidentialité des données, puisqu'on a affaire à des clients riches, etc. Mais en même temps, sur des produits qui valent ce prix-là et qui ont un tel niveau de gamme, pourquoi pas, c'est un minimum. Voilà. Voilà. Nouveauté encore.
Suivi à la trace par votre doudoune.
C'est
faites
ça.
Attention, Sandy.
Je suis suivie de partout, là.
Merci beaucoup à vous. À la semaine prochaine. Allez, Emmanuel, avec tout ce qui se passe, vous devenez gourmand. Vous vous mettez à aimer le sucré, vous n'avez pas de choix.
Écoutez, j'en tousse. Mais c'est vrai, j'arrête pas, ça fait 3 semaines de suite, parce qu'encore une nouvelle pâtisserie, mieux qu'une pâtisserie, une biscuiterie. Elle est signée d'un certain Gilles Marchal. Gilles Marchal, il appartient à cette jeune scène, ça fait un moment qu'il est là.
Jeune installé quand même.
Jeune installé, la pâtisserie française. Lui, il a toujours été depuis 2 ans à Montmartre. C'est son fief, c'est sa butte. Et justement, il ouvre ces jours-ci ça. Compagnie Générale de Biscuiterie, l'histoire est belle, parce qu'elle raconte un peu de Montmartre. Au 19e siècle, Montmartre, c'est d'abord une commune libre et puis des moulins qui meulent toute la farine, qui sera la farine de blé, la farine de seigle, qui alimentera une partie des boulangeries parisiennes. Et c'est vrai que la galette de seigle était, j'allais dire, le pain quotidien des Montmartrois. À la fin du 19e, les estaminets de Montmartre, tous ces moulins participent aux fêtes galantes, c'est l'arrivée des fameuses demi-mondaines, la goulue et compagnie. Et c'est toute cette histoire qu'il veut raconter. Alors il crée une biscuiterie, il va travailler tous les biscuits à partir de pâte feuilletée. Toutes les farines sont des farines de petits moulins, et à partir de cette pâte feuilletée, il va réinventer les biscuits. Il les réinvente, là c'est une manière de rendre hommage effectivement à l'origine, c'est-à-dire la matrice meunière de Montmartre, et puis il a inventé plein de biscuits qui renvoient aux demoiselles de Montmartre. Alors j'en cite deux, Jeanne Avril, c'est une grande danseuse de Montmartre. Il a créé l'Arlette, c'est un petit biscuit parisien, travaillé en feuilleté et vanillé. La goulue qu'on présente plus, la goulue à la fois une muse, la créatrice, dit-on, du cancan, qui est une femme plutôt dodue. Là, il a fait un biscuit plutôt fessu, feuilleté, là encore, sucré avec des éclats de noisettes. Il paraît qu'elle avait plein de grains de beauté.
On va goûter ça, ou alors la prochaine fois, vous nous en ramenez.
Ah oui, c'est
on
vrai.
Vous dira avec Sandy si c'est
vous
vraiment...
Vous avez moi les noisettes, je croque.
Eh ben, c'est sympa. Allez, pour la peine, on va passer directement à l'objet de la semaine. Parce qu'il va falloir éliminer. Et pour éliminer, je vous propose de vous mettre au vélo et au vélo de course. Héroïne, c'est le nom de ce vélo. Il a été présenté cette semaine par Marc Simoncini. Que vient faire Marc Simoncini dans le vélo? On ne sait pas. Il est fan de course, il est fan de vélo, il pratique lui-même. Le leader de la nouvelle économie française, je vous rappelle quand même qu'il a fondé Mythique et Sensi. Et donc en 2013, il s'est dit, puisque c'est ça, il a rencontré Rémi Chenu qui lui s'y connaît vraiment parce qu'on a de la R&D à tout va. Et on va lancer un vélo. Ça ressemble à quoi ce vélo, Emmanuel?
D'abord, vélo de course.
Oui, vélo de course, bien sûr.
C'est important de le rappeler. Alors, haute technicité, haute esthétique, 349 exemplaires. Autant dire que c'est une pièce hyper limitée. Oui. Ce vélo, il est plus perché que le Tourmalet, mais plutôt réussi, je pense. Le prix, vous l'avez parce
oui,
que là,
6 kg
on est au-delà
5,
de l'Everest.
6,5 kg pour 14 900 euros.
Eh ben voilà.
Oui, mais c'est ça, il y a un aérodynamisme. Je ne vous donne pas les termes techniques, mais absolument incroyable.
Imaginons en France, fabriqué pour partir en France, en Italie, un gros travail sur la fibre de carbone, qui a été, vous savez, la fibre de carbone, là encore, c'est une espèce de feuille blanche, on parle toujours de fibre de carbone, mais elle n'a de cesse depuis des années de s'améliorer. Là encore, ils ont travaillé sur 2 ans sur cette fibre, ce qui fait que c'est un vélo très très léger, c'est quand même une belle pièce. Si on peut pas l'aborder, on peut au moins en rêver.
Voilà, et ça s'appelle Héroïne, tout simplement, le nouveau vélo de course de Marc Simon Signy. Allez, nous, je ne sais pas si on va prendre le vélo, mais en tout cas, on part pour Chantilly.
Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Goût de Luxe Paris, l'édition du week-end. Karine Verniol et Emmanuel Rubin.
Et des goûts de luxe offerts cette semaine, nous vous emmenons à Chantilly, au domaine de Chantilly, domaine royal, domaine équestre, domaine aussi épicurien, pourrait-on dire. Vous allez voir dans un instant, d'autant qu'il commence à se passer pas mal de choses dès que les beaux jours arrivent. Nous sommes donc en compagnie de Pascal Grouel, bonjour.
Bonjour.
Directeur de l'auberge du Jeu de Paume, en compagnie de Benoît Perrier, bonjour.
Bonjour.
Polo manager, le Polo Club de Chantilly, avec un grand rendez-vous puisqu'il fête ses 20 ans cette année. Sophie Hubeau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes gérante de Hubeau 1539 Wine Cellar, c'est bien ainsi qu'on dit, un nouveau lieu, galerie et cave à vin sur Chantilly. Et puis également, last but not least, j'ai envie de dire, Charles-Henri Diriard, bonjour.
Bonjour.
Directeur exécutif du domaine de Chantilly. On va peut-être commencer par ça, parce que bien sûr, il y a l'actualité tout le temps au domaine de Chantilly. Il est tout
c'est
le temps là,
le domaine
de Chantilly. C'est
tous les ans, désormais.
Presque, il y a toujours un petit peu parsemé de Chantilly.
À l'automne prochain, vous remettez l'affaire ben là, Richard Mille, avec le concours d'élégance automobile.
Ah,
exactement,
élégance,
on essaye d'avoir une activité intense et c'est dès ce week-end avec les Journées des Plantes.
Alors, les Journées de Plantes, de Courson à Chantilly.
Les Journées des Plantes de Chantilly, maintenant, non, non. On assume l'héritage de Courson et on essaye de développer cet héritage. Voilà, plus de 30 ans d'expérience et une nouvelle dynamique à Chantilly.
Alors, ouais, rappelez-nous quand même, c'est quoi? C'est un grand rendez-vous, 350 exposants.
250
un petit peu.
Des pépiniéristes et des exposants autour du jardin, sélectionnés par un jury international, donc le meilleur du meilleur. C'est le plus grand événement horticole en Europe, hors Angleterre. Il reste les maîtres. Et
mais on disait la même chose justement sur les concours automobiles. Depuis le concours d'élégance de Chantilly, qui rafle tous les trophées, voilà. Les Anglais ont du souci à se faire. Faut pas hésiter à leur rentrer un peu dedans.
C'est que les Américains ont du souci à se faire également.
Eux aussi, ils ont l'habitude.
Et donc c'est 250 exposants qui présentent des belles fleurs. On est au printemps, donc c'est le moment de venir. Et puis surtout, il y a une thématique cette année qui est le jardin gourmand.
Ah, alors ça nous parle. Et surtout, ce qui est assez incroyable, ce jardin gourmand, là où on apprend tout ce que l'on peut déguster directement, presque. Et tout ce que l'on peut faire de ce que l'on plante aussi.
Exactement. Aujourd'hui, il y a une mode, un élan pour assembler la cuisine avec le jardin, et ça nous semblait une thématique intéressante à travailler de la part des pépiniéristes qui vont montrer ce qu'ils sont capables de faire, et aussi avec un chef qui va venir, le chef de la table du Connétable, pour animer des ateliers.
La table du Connétable, qui est donc le restaurant de l'auberge du Gestum, qui est le grand hôtel de Chantilly. Juste rapidement.
Pardon, on va pas se faire des amis. L'un des grands hôtels de Chantilly, on peut dire.
Oui, l'un des grands hôtels de Chantilly. Excusez-moi, je n'ai pratiqué qu'un seul.
Le grand hôtel de Chantilly.
Avec un grand
hôtel. Le seul que je connaisse. Voilà. Je vais me rattraper. Tous les ans, on fait une émission. Rapidement. On a quand même cité Courson. C'est une mémoire, Courson. C'est vrai que c'était 30 ans. C'était un grand rendez-vous. Alors, vous en êtes l'héritier. Vous l'avez dit. Qu'est-ce qui va rester de ce qui faisait la force et l'énergie de Courson et qui avait fait son succès? Et qu'est-ce que l'environnement Chantilly va apporter peut-être de nouveau? Comment vous allez rescénographier tout ça?
Alors, on garde l'état d'esprit. C'est pour ça qu'on a placé cet événement dans le jardin anglais du parc de Chantilly, pour garder la même atmosphère. On garde le niveau d'exigence avec les jurys qui sélectionnent les exposants, qui récompensent les meilleurs. Et puis, c'est un nouveau cadre un peu plus prestigieux. Donc, on essaye de développer notre activité et de le monter en gamme.
Et puis, il y a tout ce qu'il y a autour, effectivement. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est au-delà, on se déplace pour les plantes. et pour tout le reste.
Exactement, et on a tenu aussi à ce que le billet d'entrée pour les Journées des Plantes donne également accès au château, aux grandes écuries. Le château, c'est la deuxième collection de peinture ancienne après le Louvre. Les écuries, c'est le musée vivant du cheval, avec des spectacles également dimanche. Donc c'est un tout, et on essaye de montrer l'ensemble de nos facettes.
Ouais, Courson, c'était merveilleux, parce qu'il y avait un côté très rustique, très champêtre. Là, on arrive dans l'aristocratie un peu du jardin. C'est deux histoires qui se font écho, mais c'est pas tout à fait le même environnement.
On garde quand même cet état d'esprit, ça reste très champêtre, mais effectivement, il y a l'ombre tutélaire du château qui donne une autre dimension.
Deux choses. On va revenir sur les pépiniéristes gourmands et sur le jardin gourmand. Simplement, c'est important de rappeler peut-être, et vous le direz mieux que moi, pourquoi cette sélection aussi, ce jury qui sélectionne, les gens peuvent se dire pourquoi on sélectionnerait. Parce que dans l'univers de la pépinière, il y a beaucoup de choses. Le pire côtoie le meilleur. On sait aujourd'hui que c'est un peu comme en gastronomie. Les pépiniéristes, il y en a beaucoup qui s'improvisent. Il y a des pépiniéristes qui sont des pépiniéristes, comme moi, je suis à peu près je ne sais quoi.
Chef.
Donc c'est important qu'il y ait une sélection, un jury qui sélectionne les gens qui vont pouvoir venir présenter, on l'espère, le meilleur du genre.
Exactement, et on découvre qu'il y a des collectionneurs de plantes comme il y a des collectionneurs de tableaux ou de voitures anciennes, et que c'est un peu plus qu'une grande surface de l'horticulture, c'est vraiment le meilleur des plantes et le meilleur de ce qu'il y a autour du jardin.
Avec parfois des raretés.
Tant dans les plantes, et on essaye de
tous
se renouveler.
Tous les personnages qui les présentent.
Aussi.
Il y a des phénomènes, il y a des moustachus.
Alors qu'est-ce qu'il va faire le chef, Pascal Grandel, vous savez déjà
Oui, écoutez, nous avons travaillé avec Arnaud Fay pour développer un certain nombre de programmes autour de la journée des plantes de Chantilly. J'allais l'appeler Courson à nouveau, mais c'est... Voilà. Nous sommes appropriés à Chantilly cette magnifique cette journée des plantes, et donc un certain nombre d'ateliers vont être mis en place au sein de l'auberge du Jeu de Paume, et également au sein du parc, puisque Arnaud a décidé de mettre à l'honneur un cueilleur avec qui il travaille depuis des années, donc il lui fournit des aromates, des plantes tout au long de l'année. Donc un atelier va être mis en place au sein du parc pour faire découvrir un petit peu aux différents visiteurs ces ateliers. Et puis, dans le cadre de l'auberge du Jeu de Paume, dans chacun des restaurants, donc la table du Connétable, le restaurant 2 étoiles Michelin et le bistrot du Jardin d'Hiver, des menus à thème sur le thème de Courson, avec des plantes, des aromates, des graines, voilà, un certain nombre de produits qui sont là aussi pour être dans le ton de la manifestation.
Et alors, il est temps de découvrir la cuisine d'Arnaud Fay, si j'ose dire, parce que c'est vrai qu'on rappelle l'auberge du Jeu de Paume, alors qu'elle a l'air d'être là presque aussi ancienne que le domaine de Chantilly.
C'est une institution, alors c'est tout neuf.
C'est une institution, oui, elle est toute neuve, elle a même pas 5 ans.
Elle a 3 ans, c'est un peu plus de 3 ans maintenant, ouvert en septembre 2012. Hein, donc c'est vrai qu'on a l'impression déjà qu'elle fait partie du patrimoine de Chantilly. Alors, oui, quelques succès depuis cette ouverture, puisque Arnaud Fay, dans le cadre du restaurant à la table du Connétable, a obtenu cette première étoile Michelin, la première année d'exploitation de l'hôtel, après son ouverture, et une deuxième étoile Michelin, deux ans après. Voilà, donc un certain succès au niveau de cette table, qui en fait d'ailleurs une destination gourmande et gastronomique maintenant aujourd'hui. Hein. C'est pour cela aussi que de nombreux Parisiens viennent nous visiter à Chantilly durant le week-end, et en effet, quelques actualités sur ce point.
Arnaud Fay, qui va voguer vers d'autres aventures, mais on imagine que vous n'allez pas...
Il est remplacé déjà.
À l'été prochain.
On
ne
peut pas donner le nom encore du chef.
Je vais vous faire la primeur peut-être de l'information.
Puisqu'on parle de primeur.
C'est l'élégance de Chantilly.
Absolument. Donc on a un jeune garçon qui va nous rejoindre dès début juillet, parce qu'Arnaud Fay nous quittant fin juin, donc c'est Clément Leroy, donc qui va nous rejoindre, qui est un jeune garçon qui officie déjà depuis de nombreuses années dans ce métier de la haute gastronomie, puisqu'il a secondé Guy Savoy rue Troyon, donc chez Guy Savoy, et à La Monnaie maintenant depuis presque une dizaine d'années.
On dit que c'est une grosse pointure. Hein. C'est vrai que ça appartient, vous savez, ces chefs qui ont été formés, qui ont travaillé avec les grands, c'est Piège qui a travaillé des années avec Ducasse, puis un jour ils prennent le réveil, ils font enfin qu'ils soient seuls face à leur casserole. On l'attendait depuis un moment, on s'est dit mais quand est-ce qu'il va quitter, j'allais dire, le tablier paternel de Savoie. C'est un beau casting. On n'en dit pas plus, mais bravo.
Sur le papier, ça s'annonce bien.
Ah non, mais attendez, mais c'est comme dans le foot, il y a des transferts qui ne sont pas toujours magiques. Mais celui-là, a priori, sur le papier, c'est pas mal.
Dans l'assiette, ça le sera aussi.
Ah bah, on l'imagine bien. Pascal Gorel, du coup, l'auberge du Château de Paume s'est intégrée parfaitement, on disait, même si elle est toute récente, s'est intégrée parfaitement à ce qu'est Chantilly. On parlait de cheval, des caisses tout à l'heure. Et aujourd'hui, vous proposez, du coup, que ce soit au spa, que ce soit dans les suites, des services spécifiques pour ces cavaliers qui, j'imagine, vous rendent souvent visite.
Oui, l'auberge du Château de Paume, c'est un hébergement à la hauteur du patrimoine de Chantilly. Donc, on se doit d'offrir
des. Un relais équestre, quoi.
Absolument, absolument. Donc, on a un certain nombre de services. J'imagine que, voilà, vous êtes informé que Chantilly reçoit, a le plaisir de recevoir aussi le Grand Prix de l'Arc de Triomphe en octobre prochain. Et pour ce faire, donc, nous avons créé une nouvelle suite, qui est la suite Arc de Triomphe, qui propose de nombreux services, comme on peut retrouver dans les grands palaces parisiens, mais également l'hébergement des chevaux. Des propriétaires logeant dans cette suite. Donc voilà, nous avons travaillé avec des écuries à proximité, et donc l'hébergement des chevaux se fera dans les écuries à proximité de l'auberge du Jeu de Paume. Et puis aussi dans le cadre du spa, plutôt original, mais c'est
pas mal. Où est-ce que je peux garer mon cheval? Oui, voilà.
Absolument.
Tout est prévu. C'est chic. Et pendant ce temps-là, le cavalier se fait chouchouter au spa Valmont.
Voilà, donc nous avons développé avec cette très belle marque de cosmétiques Valmont avec qui nous travaillons. Quelques mois après l'ouverture de l'hôtel, avec qui nous avons signé un partenariat, un joli contrat de collaboration, quelques soins et dont un soin cavalier, donc puisque évidemment nous hébergeons de nombreux cavaliers dans le cadre du jumping, des grandes courses de Chantilly, et donc nous avons mis en place un soin cavalier spécifique pour d'ailleurs Benoît, je vous invite à venir le tester.
Benoît Parlier, polo manager. C'est vrai, le protocole de ce soin dédié aux cavaliers. C'est vrai, Benoît Parlier, qui est le polo manager du fameux polo club de Chantilly. Mais vous pouvez nous dire aussi, c'est vrai que c'est la sociologie de ceux qui font vivre et qui visitent et qui activent Chantilly, c'est énormément de cavaliers entre les entraîneurs. Il y a un hippodrome, on le rappelle, le Grand Prix de l'Arc de Triomphe, mais pas seulement. Il y a d'autres courses. Tout un tas encore d'éleveurs. Il y a les écuries. C'est énorme. Il y a des cavaliers. C'est la ville des cavaliers.
Le jumping, le Mobile Tour, qui est quand même l'un des événements magistraux majeurs dans l'univers du jumping.
Tous les passionnés qui viennent voir les collections, le domaine, c'est à peu près quoi? Sur la sociologie des visiteurs de Chantilly, c'est 8 cavaliers sur 10 visiteurs à peu près.
Sans doute. Chantilly est la capitale du cheval, donc c'est vrai qu'on doit répondre en même temps à cette demande. Et pour ce faire, donc, nous avons mis en place ces soins au spa Valmont.
Alors, vous en parliez tout à l'heure du spectacle équestre, par exemple, ce week-end, c'est Métamorphose.
Exactement.
C'est bien ça, Charles-Henri Drière.
C'est un nouveau spectacle créé par Sophie Bien-Aimé et la compagnie équestre du domaine de Chantilly, qui propose effectivement un voyage onirique inspiré par Ovid, mais très 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 tourné vers le rêve.
Donc la prouesse, ouais.
la prouesse équestre, la musique, le chant et la danse avec un artiste invité, Antoine Lafont.
Voilà, mais c'est pas que ce week-end, hein. Après ça dure,
c'est toute l'année, et effectivement ça fait partie des pôles d'attractivité du domaine de Chantilly, en même temps que les collections.
Et puis donc le polo. Alors là, le polo club de Chantilly, on fait juste une petite introduction histoire de donner un petit peu de tenir en haleine les auditeurs et téléspectateurs. Les 20 ans du polo club de Chantilly. 20 ans déjà, il faut dire.
20 ans d'existence, il y a encore beaucoup à faire. C'est un sport qui, aujourd'hui, le Polo Club de Chantilly a réussi à développer des infrastructures importantes au niveau européen. On est parmi les 3 plus grosses structures en termes de dispositifs, structures sportives, c'est-à-dire terrain, piste d'entraînement et boxe. Mais nous avons encore beaucoup à faire pour développer et avoir des joueurs de très haut niveau. Et en fait, pour nos 20 ans, nous voulons célébrer justement le travail qui a été achevé, c'est-à-dire en rassemblant les meilleurs joueurs français et en leur permettant de faire un test match, sachant que tous ces joueurs français aujourd'hui qui sont dans le haut niveau sont des joueurs qui sont issus du monde du poney polo, qu'on commençait avec justement il y a 20 ans. Et aujourd'hui, ils ont réussi à achever une grande partie de leur carrière et à montrer des capacités importantes. Et on va avoir un très beau match face à l'Argentine, qui est la nation leader.
C'est quand même énorme.
C'est la grande nation. C'est comme si les All Blacks...
Sauf qu'on est une grande nation du rugby. C'est un peu comme si la Roumanie, qui est une nation du rugby, rencontrait les All Blacks. Parce qu'on est une petite nation du polo.
Oui, mais la France progresse. On est la deuxième nation européenne. On est la deuxième nation européenne après l'Angleterre, qui reste une nation très importante dans l'univers sportif du polo. Vous avez les États-Unis aussi qui sont très importants. Et la France aujourd'hui a une équipe qui progresse avec 4 joueurs.
Donc on fait un peu comme les Argentins en rugby.
À son nom,
elle est pourquoi pas,
pourquoi
mais
n'essayez pas de comparer, c'est du polo.
C'est un test match.
Allez, ce qui est intéressant, c'est que c'est
ce qui est intéressant, c'est qu'on fait une petite pause et puis après.
Je suis déjà bridé.
Et puis après, on laisse parler Benoît Perrier. On se retrouve tout de suite sur BFM Business.
Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Bout de Luxe Paris, l'édition du week-end. Karine Verniol et Emmanuel Rubin.
Chantilly, son château, ses écuries, mais pas seulement, vous allez voir, le domaine royal a de véritables goûts de luxe. Nous sommes toujours en compagnie de Pascal Groel, directeur de l'auberge du Jeu de Paume, de Benoît Perrier, polo manager du polo club de Chantilly, de Sophie Hubeau, gérante de Hubeau, 1539 Wine Cellar, et de Charles-Henri Diriard, directeur exécutif du domaine de Chantilly. On s'était donc arrêté pratiquement en pleine partie de polo. Ça va se passer là, le 22 mai, pour les 20 ans du polo club de Chantilly. Créé, on va quand même citer Patrick Guérand-Hermès, le président fondateur, et donc Philippe Perrier, votre père Benoît Perrier, l'infatigable directeur du club, qui ont monté tout ceci. Et donc le point d'honneur, ça sera cette rencontre France-Argentine. Emmanuel.
Bah avant de revenir sur cette rencontre, qui est quand même un grand événement, vous l'avez dit, la plus grande nation du polo, c'est mythique, qui rencontre une nation qui est en train de monter à France. Mais vous l'avez dit juste avant la pause, l'équipe de France telle qu'elle est constituée aujourd'hui sont tous des joueurs qui ont été formés par ce fameux poney polo. Et depuis des années, on parle de, je ne sais pas si c'est la démocratisation du polo, mais en tout cas, de donner les moyens pour que des gens qui n'étaient peut-être pas à même, en tout cas qui n'avaient pas les réseaux pour faire du polo, puissent en faire. Et c'est passé en partie par ce fameux poney polo. Aujourd'hui, tous les joueurs français sont passés par là. Donc c'est plutôt un succès, c'est plutôt une réussite, ce fameux apprentissage.
Ça souligne que le travail accompli par Chantilly, par la Fédération française d'équitation, la Fédération française de polo et tous les clubs français va dans le bon sens. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui, par exemple, un tournoi qui est à la Meute Beuvron organisé par la Fédération française d'équitation. Vous avez 50 équipes de juniors qui sont rassemblées sous le label de la Fédération française d'équitation. Vous pouvez commencer le poney polo à partir de 8 ans sans souci, et les enfants évoluent très rapidement. Et après, il y a différents niveaux. On peut tout de suite les faire jouer avec les grands. C'est un sport où les plus grands peuvent jouer avec les plus jeunes. C'est pas un problème. Et vous avez également, c'est un sport mixte. C'est une des particularités de ce sport, c'est-à-dire que vous avez aussi bien, il n'y a pas de limite sur l'âge et il n'y a pas de limite sur.
Au polo, je ne sais pas si c'est comme le ski, pardon. C'est juste que effectivement, les enfants, ils ont très peu d'appréhension. C'est-à-dire plus ils commencent jeunes et qu'ils montent sur des poneys, moins ils ont d'appréhension. Plus on peut l'imaginer lorsqu'ils vont grandir en même temps que leur cheval, ils vont être des bons joueurs de polo. C'est ce qui fait la force des Argentins.
C'est ce qui fait leur force. Vous avez un tournoi qui s'appelle la Coupe Potrillos en Argentine, qui rassemble tous les grandes familles argentines du polo. Et vous voyez tous les talents à 6 ans, 7 ans, 8 ans qui sont déjà en train de jouer. À 2 ans ou 3 ans, ils sont déjà avec un maillet et ils tapent la balle. Donc c'est dans leur génétique, mais parce que ils ont été préparés pour ça. Et nous, on voit bien que les meilleurs joueurs français sont issus de ce parcours. Ils ont commencé jeunes, de cette filière. Et en les accompagnant, en les aidant à travers les structures des clubs, à travers des chevaux qui leur sont prêtés, puis après, ils arrivent peu à peu à se professionnaliser. Ils arrivent à monter en puissance. Et on se retrouve aujourd'hui avec une équipe très organisée, dont un joueur, le meilleur joueur français, qui s'appelle Brieux Rigaud, qui est numéro 1, qui à la base n'était pas issu d'une famille du polo, qui était basé à Apremont, qui a découvert le club quand nous sommes installés, qui est devenu aujourd'hui le meilleur joueur français. Vous avez Pierre-Henri Ngoumou, qui est un dresseur et qui a un élevage, un haras à Deauville, qui est un garçon qui aujourd'hui joue de façon internationale, qui est aussi issu de ce secteur-là. Patrick Payol, qui est un garçon qui aujourd'hui a en plus une activité, il est banquier, et en même temps, il est sportif de haut niveau. Et puis, un quatrième joueur qui est entrepreneur, il développe sa société, mais aussi qui joue dans toute l'Europe.
Il y a combien de personnes au Polo Club de Chantilly?
Pardon?
Il y a combien de personnes au Polo Club de Chantilly?
Vous avez 380 licenciés à Chantilly.
Autant d'hommes que de femmes?
Autant d'hommes que de femmes. Il y a une majorité d'hommes, mais c'est la progression. Il y a plus en plus de joueuses qui commencent le polo.
D'accord.
Alors, 22 mai, au Polo Club, ce fameux match. Allez, j'oublie la comparaison avec le rugby. C'est un peu comme s'il y avait un match France-Brésil en football. simplement, est-ce que le public peut venir assister? Parce que c'est vraiment, on l'a souvent dit à chaque fois qu'on a invité des joueurs polo, allez voir un match de polo, que vous connaissiez ou pas les règles. D'abord, c'est assez simple, on comprend très vite. C'est absolument, quand je dis c'est un sport de centaure, c'est le sport des centaures, où l'homme vient comme ça se fondre avec la bête. Il y a une sonorité unique, on entend les naseaux qui rient, la respiration des bêtes. quand le ciel tremble parce qu'il y a les galops, c'est impressionnant. Faut y aller au moins une fois. C'est ouvert donc au public.
Tout à fait.
La billetterie est encore ouverte.
Alors, notre fondateur, Patrick Guéant-Hermès, a toujours voulu et a encore voulu et insisté pour que cet événement soit ouvert à tous. Donc, c'est en accès libre.
Ah,
on organise un pique-nique avec un concours d'élégance, avec des prix, avec différents partenaires. Il y a Tumès, il y a Richard
Mille. Non seulement c'est en accès libre, mais on peut repartir avec des cadeaux.
Et vous pouvez repartir avec un Perrier Jouet, bien entendu. Enfin, il y a plein de cadeaux qui seront là pour ceux qui viennent avec les plus beaux pique-niques. Il y a un défilé équestre qui est prévu avec, pour célébrer et rassembler toutes les disciplines équestres de Chantilly. Donc, on a le jumping, l'univers des courses, le jumping de Chantilly avec Gérard Mandinali, l'univers des courses, les poneys, bien entendu, l'attelage avec Arnaud. L'attelage, vous avez également les Henson qui sont présents, qui a aujourd'hui une race qui a été développée pour faire des balades équestres en Picardie.
Les Henson, c'est une race de cheval.
Tout à fait spécifique, a été développée dans la baie de Somme et qui est présent et qui sera également ici.
C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on fait le lien finalement toujours avec tout ça, ce qu'on disait, le cheval est partout présent, on retrouve peu ou prou les mêmes partenaires. Alors d'habitude, on vous parliez du concours d'élégance, on a parlé de Richard Mille, on connaît le prix de Diane, bien sûr, le 19 juin.
Oui,
mais là vous nous y mettez aussi. Donc en fait, quand on va à Chantilly...
Dernière famille qu'on oublie, parce que Chantilly, si Chantilly existe, c'est l'Avennerie. Parce que au départ, il faut savoir que c'était les princes qui ont développé la vénerie parce que les sols étaient extrêmement bons et venaient pour galoper dans les forêts de Chantilly parce que vous aviez un sol qui était naturellement sablonneux et donc pour les chevaux c'était formidable.
On rappelle la vénerie, hein, c'est l'art de la chasse.
Et l'attelage sera présent et la vénerie sera présent à nos côtés également lors de cet événement.
D'ailleurs, pour revenir sur l'auberge du Jeu de Paume, en saison, c'était l'un des rares chefs qui savait joliment travailler le gibier.
Absolument. Tout à fait.
J'espère que le suivant sera travaillé.
Alors, de temps en temps aussi, on fait une petite pause, par exemple, à Chantilly, et on va boire un verre, par exemple, dans un nouveau lieu. Alors, pas seulement parce que vous êtes une cave, avec votre épouse Sophie Beau, vous tenez Hubo 1539 Wine Cellar, pas seulement, vous êtes aussi une galerie, un nouveau lieu, avec d'ailleurs, c'est assez étonnant, avec du mobilier très design, du coup, on change un petit peu de look, alors qu'on est vraiment toujours au cœur de ce village historique. Ouais. Quelle était l'idée au départ de Hubo 1539?
Ah, c'est vraiment l'âme de mon mari, Anthony Hubo. C'est un passionné d'art, passionné de vin, puisqu'il est sommelier, finaliste meilleur envoyé de France en sommellerie 2015. Et il adore les belles choses, que ce soit du design, que ce soit des objets un peu insolites. J'ai d'ailleurs apporté, ne pouvant amener mon mari aujourd'hui, je vais apporter un poivron. C'est une œuvre magnifique de Patrick Laroche, qui est à Gouvieux. C'est d'ailleurs la même œuvre d'art qui a été dans le pavillon français à Milan, étant beaucoup plus gros, mais là il est en plus petit.
Et c'est l'exposition universelle, l'an passé.
Voilà, et c'est notre dernière acquisition. Elle est arrivée hier soir, donc je me suis permise de vous l'amener pour vous.
Mais on est gâtés aujourd'hui. On a le nouveau chef de l'auberge de Paume, une pièce en exclusivité.
C'est du bronze.
C'est du bronze.
C'est du bronze. Étonnant. C'est assez lourd, c'est peint d'une, enfin il y a une technique,
oui, parce qu'il paraît avec des reflets bleus comme ça, c'est assez.
Voilà.
Donc ça c'est pour la partie galerie
artistique,
mais aussi c'est aussi une vinothèque, une cave de grandes bouteilles, oui, avec une idée de découverte aussi, par exemple avec des champagnes qu'on ne voit pas partout. C'est ça l'idée.
Tout à fait. Donc l'idée vraiment d'Anthony, c'était de pouvoir faire découvrir à beaucoup de gens des vins un peu confidentiels, comme il dit, des bombes atomiques qui ne sont pas connues, donc qui n'ont pas une grosse valeur marketing ou un nom, et forcément à des prix beaucoup plus abordables. Et puis il y a
sur les vins plutôt en biodynamie, ce qu'on appelle les vins de soif, toute
cette nouvelle génération. Quasiment 95% est en biodynamie, au bio aujourd'hui. Ce n'est même plus un argument de vente parce que
non,
beaucoup de gens le font,
ouais,
tout à fait. Mais l'argument, c'est des rencontres avec des vrais vignerons, enfin des vrais vignerons, avec des vignerons.
Ah, si, je voulais le dire, c'est vrai, il y a des vrais vignerons, comme il y en a des faux, c'est comme les chefs,
tout
comme
à fait.
Les cavaliers,
tout à fait.
Comme les pépinières.
C'est vraiment une histoire.
Comme le journaliste.
C'est vraiment une histoire de rencontre. Ce sont souvent des jeunes que l'on essaie de promouvoir. Très bon produit. Et puis, il y a également les vins confidentiels pour les gens qui sont très pointus, qui connaissent très très bien le vin. Il y a une très belle clientèle de par nos voisins et par les événements qui arrivent chez nous. Vous donner un exemple, le premier vin chez nous, c'est un les quatre pierres, un petit vin rosé qui est à 9 euros. Et puis on a des vins confidentiels tels que l'Astéroïde, par exemple, qui est un pouilly fumé de vigne franche de pied, donc pré-phylloxéra, avec une toute petite parcelle. Il y a très peu de production. Donc un pouilly fumé, pour la majeure partie des gens, ça apparaît un vin qu'on rencontre, mais celui-ci est excessivement confidentiel.
Alors, effectivement, on rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, oui, et que ça a consommé avec modération.
Par-delà la galerie, par-delà le travail de sommellerie autour du caviste, pourquoi vous avez choisi Chantilly? Vous installer à Chantilly, parce que c'est vrai que c'est une ville dynamique. Moi, j'aime beaucoup les villes de province, je vais souvent en week-end. Souvent, il y a des grands événements. Une vraie dynamique, parfois des pouvoirs politiques, pouvoirs publics. Et puis, c'est vrai que quand on est dans le centre-ville, l'univers est en train un peu de disparaître. On voit moins de boutiques de bouche, on voit moins de restaurants, on voit moins d'auberges, moins d'hôtels. C'est aussi ce qui fait la force d'une ville. C'est certes ces événements, mais si c'est accompagné, j'allais dire, d'un centre-ville qui est vivant, avec des gens qui viennent réinstaller ce qu'on appelle un certain art de vivre. C'est ce qui a fait la force de l'auberge du Jeu de Paume. Je crois que c'est effectivement, ça a rapporté beaucoup à Chantilly, parce que c'était enfin un grand hôtel, une table qui allait avec. Pourquoi vous voulez décider de s'installer à Chantilly?
Tout simplement parce qu'on est du coin. Moi, je suis revenue en France. Mon mari était à Chantilly. Nous sommes rencontrés à Chantilly. Nous sommes mariés à Chantilly. Nous sommes installés à Chantilly. Nous avons repris la boutique en dessous de chez nous.
Voilà.
Et Chantilly, c'est
rue
vraiment
du Connétable.
Tout à fait. Juste dans le quartier historique, en face des grandes écuries, à côté de très grands établissements. Et c'est ce coin, même le restaurant de Chantilly, de donner un influx de luxe, d'art de vivre, de belles choses et de faire partager. Donc, les événements l'aident. Et au-delà du magasin, il y a toute la partie consulting qu'Anthony fait. Et donc, la connaissance de la région et de la région parisienne fait que ça nous a aidés, puisqu'il fait la carte des vins pour certains établissements, pour des traiteurs. D'ailleurs, les vins, lors des Journées des Plantes à l'intérieur du château par Édouard VII, ce sera fourni par Hugo 1539. Nous faisons des caves aussi.
Et oui, tout ça est lié. J'ai juste, parce que ça doit se terminer. Benoît Perrier, quand on est joueur de polo, on a le droit d'être épicurien?
On adore.
Ah.
On aime les belles choses et on aime les bonnes choses.
Bon. Troisième mi-temps peut-être.
Oui, bien entendu.
Il y a la troisième mi-temps.
On adore. Et alors nous, on est très dans les grands asados argentines, c'est-à-dire le barbecue avec justement, c'est la particularité, c'est qu'on aime bien se réunir après avec tous les cavaliers soigneurs, ce qu'on appelle les peticeros, qui travaillent tous les jours les chevaux qu'ils entraînent. Donc il y a cette troisième mi-temps qui se fait avec les joueurs et dans les écuries, généralement on fait des grands barbecues au club et avec des vins argentins aussi, ça ou des vins français. Mm-hmm. Et on aime beaucoup Terraza de Los Andes.
Je vais vous dire, on a l'occasion de vous réinviter l'année prochaine tous à la même époque. Et je vous donne une idée. C'est que le nouveau chef de l'auberge du Jeu de Paume, la table du Connétable, l'équipe du Polo Club, bien sûr, le domaine qui sera ravi de mettre à disposition, c'est merveilleux. Et puis, le sommelier nous organise un énorme assado. Et ça sera l'histoire l'année prochaine.
Vous voilà. Êtes les derniers au domaine.
Hein. Voilà. On va le faire national.
Et voilà, et ce sera très good luxe. Merci infiniment à tous les quatre en attendant d'être venus jusqu'à nous.
Et foncez à Chantilly.
Et voilà, foncez à Chantilly.
France-Argentine à 15h le 22 mai.
Voilà, Benoît Perrier, merci infiniment. Polo Club de Chantilly, Pascal Greul, directeur de l'auberge du Jeu de Paume. Elle est ouverte toute l'année. Merci beaucoup à vous, Sophie Hubo 1539 fois INSELA, et Charles-Henri Diriard, le domaine de Chantilly. Vous en êtes le directeur exécutif. Les Journées des Plantes ce week-end. Et puis tout le reste qui suit. Merci beaucoup à vous. Allez, restez avec nous. On poursuit nos petites balades. On a envie de sortir en ce moment dans Good Luxe.
Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Good Luxe Paris, l'édition du week-end. Karine Verniolle et Emmanuel Rubin.
Et Good Luxe poursuit sa balade après Chantilly et avant le désert. On s'arrête au Brésil. C'est le livre de la semaine. Emmanuel, je vous emmène à Rio Nosso. Qu'est-ce que c'est Rio Nosso? En fait, c'est Rio de Janeiro et le Brésil. Et c'est une ville, deux filles, trois ans. Je vous raconte, c'est aux éditions La Martinière. Camille Lebon, qui travaille dans la com, dans les partenariats, un jour elle part pour Rio de Janeiro, elle va y rester. Elle rencontre Johanna Tomé de Souza, et donc elle y reste trois ans. Et qu'est-ce qu'elles font en sortant? Elles font un ouvrage qui est absolument génial. D'abord, il n'y a aucune photo, ce ne sont que des dessins, c'est du graphisme. Mais hyper précis. Rien que la couverture vous donne un petit peu le ton, on voit la plage. Un côté un petit peu BD, un petit peu sympathique.
Sauf que c'est pas du tout carnet de voyage. On est vraiment dans l'histoire du graphisme de la BD.
Oui, mais sauf qu'à l'intérieur, le contenu, on est dans un carnet de voyage. C'est-à-dire, le premier jour, la première chose qu'on voit, eh bien, ce sont les montagnes et la mer. Deuxième jour, la plage. Elle vous décrit ce que l'on vous voit à la plage. Et ça va comme ça, de fil en aiguille, de toutes les rencontres et de tous les aspects de la ville.
Tout à fait. Moi, je trouve que c'est effectivement un carnet de voyage dans l'imaginaire, mais, elles ont le mérite, vous savez, les carnets de voyage, c'est souvent un petit peu des aquarelles, des pastels, un peu ton sur ton, face-face, j'ai vu un paysage, c'est un peu carte postale, c'est un peu daté, c'est un peu les maisons d'édition ringardes, et les voyageurs old school. Là, elles prennent tous les codes du graphisme contemporain, de la BD, de l'imaginaire, presque du slogan, du graphisme. Moi, j'ai beaucoup aimé, franchement, c'est un joli travail.
Il y a plein de personnages, c'est vraiment ça, quand vous dites, effectivement, il faut que, à chaque fois qu'elles vous racontent quelque chose, elles vous racontent les rencontres, elles vous mettent les personnages en situation, que ce soit les hommes ou les animaux.
Ça réinvente un peu l'album de voyage et le beau livre de voyage.
Exactement. Donc celui-là, vous ne pouvez pas l'emmener. Vous le regardez avant, vous prenez
ça
des
notes. Ça donne
envie
de partir.
Et alors, il y a une très belle phrase du préfacier Gregorio Duvivier. « Après avoir terminé la lecture de ce livre, j'ai voulu embarquer à bord d'un avion pour découvrir Rio, mais je me suis souvenu que j'y étais déjà. »
Voilà. Joli.
Donc voilà, c'est une belle récompense pour Camille Lebon, Johanna Tomé de Souza. Ça s'appelle « Rio Nosso » et c'est aux éditions de La Martinière. Allez, Good Lux d'ici et d'ailleurs.
Good Lux Paris, l'édition du week-end. D'ici et d'ailleurs.
Capucine Grabi, bonjour.
Karine, Emmanuel, ravie de vous retrouver.
MyMoonSpots.com vous a emmené dans les caravanes transsahariennes. Vous avez fait un truc de dingue.
Ouais, j'ai fait un truc de dingue. Alors, c'est vrai que depuis que je suis ici pour vous raconter mes épopées, j'ai l'impression que je vous emmène quand même toujours dans des lieux fermés, des riades, des loges, qui sont des établissements finalement. Et je vais vous parler d'une prouesse de quelqu'un qui est un peu pionnier dans l'univers de l'hôtellerie et qui a eu l'idée justement de bousculer un petit peu les codes de l'hôtellerie, qui peut être parfois un petit peu fatigué, et d'imaginer des hôtels, enfin des maisons privées qui sont complètement ouvertes sur le monde et qui sont campées dans des endroits vierges encore de tout touriste. Donc c'est l'idée de Thierry Tessier, dont je vous avais déjà parlé il y a un an et demi, qui est le créateur de la pâtisserie des rêves au passage, et qui avait déjà créé un hôtel dans la palmeraie de Skoura, à côté de Ouarzazate.
Et au Portugal également.
Au Maroc. Et au Portugal, tout à fait. Et au Portugal, en l'occurrence, il a fermé depuis. Et c'est d'ailleurs comme ça que je l'ai connu, parce que j'ai une fois été au Portugal, j'ai trouvé cet endroit complètement magique.
C'est très beau,
ouais. Et c'est pour ça que, il a été fermé depuis. Aïe. Malheureusement. Et donc lui, il a ouvert sa casbah à côté de Ouarzazate. Et là, il s'est dit, comment réinventer tout ça? Et il a créé une sorte de circuit, on pourrait dire plutôt un road trip cousu main, qui va de maison en maison, donc des maisons complètement perdues dans des villages de femmes, on va le voir, des villages près de la mer, dans la vallée des Arganiers, qui est au sud d'Agadir. Et il a conçu ces maisons en osmose, en alchimie totale avec la culture et la douceur marocaine. C'est des endroits où aucun touriste ne pourrait atterrir, même en camping-car, parce qu'ils sont loin de tout.
Surtout pas en camping-car.
peut-être, parce qu'on ne peut pas arriver là.
Trois maisons privées. Alors, point de départ.
De maison en maison.
Donc on va de maison en maison.
Ouarzazate et voilà. Une route, on passe quand même par la route.
On passe quand même par la route, mais en fait, donc cette route, c'est celle qui suit à peu près celle des caravanes transsahariennes, donc qui allait à l'époque de Marrakech à Tombouctou et qui mettait 2 mois avec 2000 dromadaires pour transporter le sel, les pierres précieuses, etc. Et qui s'arrêtait finalement dans les palmeraies, les oasis pour faire escale pour une journée.
Agadir, alors. Ça
donc la première, c'est Agadir, c'est cette fameuse vallée des Arganiers où il y a des centaines de milliers d'Arganiers qui sont absolument sublimes.
Pour faire l'huile d'argan.
Qui au passage a acquis ses lettres de noblesse et aujourd'hui dans toutes les marques de cosmétiques s'arrachent, donc c'est vraiment de l'or pour le Maroc. Donc on passe une nuit là, ensuite on part dans la palmeraie de Tigmert qui est beaucoup plus au sud, et là c'est la maison de l'oasis tout en pisé dans un esprit très out of Africa. Donc on peut se balader dans la palmeraie où effectivement on ne croise personne à part une ou deux femmes
parfois
égarées
même.
Parce que même, parce que les Marocains, faut savoir, ils vivent vraiment en huis clos, hein. On voit personne. Il y a pas de café, pas de bar. Ils vivent chez eux, en toute discrétion. Et la dernière étape, c'est un décor pour le coup complètement différent. Un peu de Far West. Il a appelé ça la Maison Rouge. Et c'est un village de femmes. Qu'est-ce que c'est un village de femmes? C'est un village qui a été déserté par les hommes qui sont allés travailler en France ou à Casa ou à Rabat. Donc il y a que des femmes et des enfants qui restent et qui vivent dans cette moiteur du sud marocain. Et donc on observe des femmes de loin. Enfin, elles sont un petit peu apeurées. Elles comprennent surtout pas ce que quelques blancs viennent faire ici. Donc à chaque fois, on est dans des décors magiques. C'est une odyssée presque onirique avec une cuisine qui va avec un ameublement extraordinaire. Mais moi, ce que j'ai vraiment adoré, au-delà de cet aspect cosmétique et de cette élégance, c'est d'être vraiment en prise avec la culture, avec la douceur marocaine.
Avec les paysages, j'imagine aussi.
Oui, mais on est là, on pourrait rester des jours et des jours à lire Nicolas Bouvier, à manger ses tagines, à être vraiment au bout du monde. Il y a vraiment un esprit au bout du monde qu'il a parfaitement pensé. Je trouve que c'est assez admirable.
Donc voilà, les paysages, on n'en parle pas. Finalement, c'est presque indescriptible. Et puis, comme vous dites, on va sur mymondespot.com, vous nous montrez quelques images, vous nous racontez ça. Finalement, on ne parle pas de prix.
On parle pas de prix. On n'en parle jamais. On n'en parle jamais dans cette émission, donc ça m'arrange. C'est vrai que on est au-delà du voyage. Je dirais presque que c'est une œuvre d'art. Pour vous mettre un petit peu dans l'esprit, vous arrivez avec votre valise, vous prenez tous les éléments qui sont dans votre valise et vous les mettez dans une malle. Cette malle, ensuite, elle est portée par un âne qui va monter dans chaque maison. Vous voyez ce que je veux dire? Chaque détail est pensé. On vous donne un petit carnet pour vous notiez vos impressions. On vous donne du lait d'amande avant de partir d'étape en étape pour vous fortifier. C'est une œuvre d'art. Ça n'a pas de prix, mais heureusement qu'il y a des choses comme ça qui existent aujourd'hui.
Ah, et c'est ce que
donc
vous
félicitations.
Avez... Voilà, et c'est Thierry Tessier.
C'est Thierry Tessier
qui a inventé tout ça. C'est de ça dont vous allez discuter dans vos dîners inspirationnels, Capucine Grabi.
Alors les dîners inspirationnels, merci beaucoup d'en parler. C'est vrai qu'il y a le premier le 23 mai prochain. Donc l'idée c'était d'inspirer quelques moonspotters triés sur le volet dans quelque chose de très exclusif avec 6 à 8 personnes maximum dans un appartement privé et de les éclairer sur ce voyage-là ou sur les endroits où les gens ont envie d'aller, mais sur les spots qui me semblent les plus exceptionnels aujourd'hui dans le monde. Et donc l'idée c'était de le faire en partenariat avec un grand chef et c'est donc Christian Etchebest qui va venir cuisiner chez moi le 23 mai pour le baptême du feu.
S'il commence
à parler, on n'est pas sorti de berge, mais ça s'annonce très bien. Donc c'est le premier, il y en aura d'autres dès la rentrée de septembre.
Voilà. Donc pour les comment vous les appelez vos clients?
Les moonspotters, qui viennent dans les inspiring dinners.
Ça se faisait beaucoup, vous savez, les retours de discussion de voyage.
Voilà.
Tous les clubs anglais qui étaient des grands voyageurs, les clubs men revenaient et racontaient leur voyage. C'est d'ailleurs ce qui est le début du Tour du Monde en 80 jours. Il est au Reform Club, ils font des paris de voyage et à la fin ils vont débriefer leur voyage.
Alors là, c'est
très british en fait.
Je ne le savais pas. Là, c'est avant, mais on pourrait le faire après.
On va faire avant et après. Merci beaucoup.
Merci Karine.
Capucine Gravy, mymoonspots.com. Allez, rapidement l'agenda.
Good de Luxe Paris, l'édition du week-end. L'agenda.
Une petite expo.
Une exposition qui commence ce week-end. C'est la nouvelle exposition du musée Galliera, du palais Galliera à Paris. S'appelle Anatomie d'une collection. C'est intéressant parce que le musée Galliera, c'est d'abord un fonds. Un fonds qui réunit des milliers de pièces de mode. Là, ils en ont sélectionné une centaine. Et ces pièces de mode, elles vont rencontrer environ 3 siècles de mode. Jusqu'ici, on a déjà vu ça, mais il faut dire que les pièces sont quand même assez bluffantes. L'habit du dauphin, le gilet de Napoléon, la robe de l'impératrice Joséphine, mais également un pantalon d'ouvrier, la robe de George Sand, le collet de Sarah Bernhardt, un chapeau, chaussures de gala, des tabliers de travail, un tailleur de Draper. Donc 3 siècles de mode sur le qui porte quoi. À la fois des stars, qui sont souvent les vitrines, les porte-manteaux qui vont bousculer la mode, mais aussi des codes beaucoup plus populaires qui ont aussi bousculé à leur manière la mode. Ce qui sait encore, tout va bien. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est qu'en creux, cette exposition, elle raconte comment on interroge, c'est pour ça que ça s'appelle Anatomie d'une collection, comment on sélectionne parmi des milliers de pièces chez Galliera, environ une centaine. Pourquoi on a choisi celle-ci? En fait, ça raconte l'idée d'une collection, comment ça se construit un fonds à la manière d'une bibliothèque, comment ça sélectionne, comment ça s'anime, comment ça s'active, comment ça parle au monde. Et puis aussi, ça nous raconte un peu comment, depuis 3 siècles, qui porte quoi, le fameux habit fait le moine, parfois oui, parfois non. Moi, j'ai trouvé cette exposition, j'ai feuilleté le catalogue, très poétique. Maintenant, faut aller tous ensemble à la scénographie, c'est ce qui fera la différence.
Anatomie d'une collection. Et je termine avec un anniversaire, l'anniversaire de la maison Plisson, boulevard Beaumarchais à Paris. Premier anniversaire tout le mois de mai. Et du coup, elle aussi, elle s'offre de grands chefs, 14 grands chefs français autour de l'amour du bon. Qu'est-ce qu'elle leur a dit? Tout simplement, il y a un restaurant, il y a un café-restaurant, un vrai restaurant bien d'ailleurs, sûr, à Maison Plisson. Allez vous servir, dans les produits frais, dans les produits
dans les piscines, que
nous
présentons,
parce que c'est ça, hein, c'est vraiment ça l'idée.
Concoctez-nous quelque chose.
Et voilà, et concoctez-nous quelque chose, donc de Éric Fréchon à Pierre Sang, passant par Armand Arnal, Mathieu Pacot, Christophe Felder, Cyril Lignac, Benoît Cassel, etc. Donc pas mal de beau monde. On peut commencer avec une purée de petits pois à la menthe et velouté d'asperges blanches d'Éric Fréchon. Ensuite, les petites tripes à la romaine de Giovanni Passerini. Et puis, tiens, un petit dessert, un baba au rhum de Cyril Lignac, ça vous va?
Ça va.
Voilà, ça c'est à peu près le menu que l'on vous propose
la
en ce moment.
Cuisson. Moi j'avais été assez sévère finalement au départ, il y a un an. Je n'ai pas toujours tout compris à l'idée, finalement je trouvais ça très très boboisé. Je trouve que ça trouve son rythme de croisière. Un peu moins côté épicerie, mais en tout cas côté café et restaurant, c'est de mieux en mieux.
Eh bah parfait, comme voilà. Ça c'est dit.
Oui, alors, je suis pas toujours vache.
Plus de galons au bout d'un an, comme quoi il faut toujours patienter.
Leurs betteraves sont très bonnes.
Voilà. Vous mangez de la betterave.
Et Emmanuel Rubin.
Vous êtes une saignante.
Vous savez qu'Emmanuel Rubin revient toujours sur ses traces. Donc il ne se fiche jamais à sa première
comme
fois.
Comme personne
ne
me suit. Hein.
Merci beaucoup Emmanuel, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour d'autres Good Luxe. Vous restez encore un petit peu avec nous, c'est le best-of de Good Luxe Paris, à tout de suite.